Yannick Kremer, bonjour.
Bonjour.
Michel Faure, bonjour.
Bonjour.
Et Natacha Gallego, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous représentez tous les trois la liste Arras à gauche pour les prochaines municipales. Comment ça avance, la constitution de cette liste, la campagne ?
Pour le moment, on est en train de finaliser la constitution d'une liste, c'est-à-dire que pour l'instant, on va dire que, puisque pour rappel, il nous faut au moins 43 personnes, sachant qu'il faut qu'on travaille en respectant la parité et l'alternance homme-femme, il nous en faut encore 2 ou 3 supplémentaires. On va dire qu'elle est à peu près aux 3/4 constituée, mais que nous, on se donne encore une marge pour permettre à celles et ceux qui n'ont pas encore fait le choix de venir nous rejoindre, parce qu'encore une fois, l'idée pour nous, c'est que c'est une liste qui est portée par LFI, certes, mais qui reste ouverte aux citoyens, aux associatifs, enfin aux personnes qui souhaitent nous rejoindre, parce que justement on a quelque chose à construire ensemble. Alors le principe d'une élection pour les municipales fonctionne de la façon suivante, qu'il faille avoir une tête de liste qui soit un peu figure de proue, mais nous concernant, en fait, nous, on se présente plus comme un collectif, c'est-à-dire que ma voix compte autant que celle de tous les membres qui seront présents sur notre liste. Donc, quand on en échange, quand on en discute, quand on élabore une stratégie, quand on élabore une mesure, on en discute et on en échange tous ensemble, que ce soit pour Natacha ou pour Michel qui sont présents avec nous en studio aujourd'hui, mais ça peut être le cas aussi pour l'ensemble des gens qui sont présents sur notre liste. Et d'une manière générale, c'est aussi, peut-être qu'on aura l'occasion de l'aborder, mais c'est un peu notre manière aussi de vouloir travailler sur les questions démocratiques et de faire en sorte de redonner au maximum la parole aux citoyens, parce qu'on a le sentiment parfois que il y a un jeu électoral et puis qu'ensuite, fermer le banc, on se revoit dans 6 ans, quoi. Voilà. Cette idée de collectif, on souhaite le faire évoluer, le faire grandir. Donc, concernant la constitution de la liste, on en est à peu près aux 3/4, en se disant qu'on aimerait que celle-ci soit définitivement constituée d'ici la fin du mois de janvier, puisque je crois qu'il faut qu'on dépose les listes en préfecture dans le courant du mois de février. Là, après, en ce qui concerne la campagne à proprement parler, là, j'ai envie de vous dire qu'on est dans une phase où on va au-devant des Arrageois, on fait pas mal de porte-à-porte, parce que ça nous permet, ces porte-à-porte, déjà, un, de nous présenter, et puis deux, ça nous permet aussi de reprendre et de recenser les souhaits des Arrageois, ou en tout cas de lister avec eux les points sur lesquels ils aimeraient qu'une municipalité insoumise soit en mesure de pouvoir porter des propositions qui soient de nature à pouvoir rendre leur vie un peu meilleure, quoi, tout simplement. Donc on fait pas mal de porte-à-porte, on essaye de structurer, de taper un peu à toutes les portes de tous les quartiers de la ville. De toute manière, c'est un peu notre marque de fabrique, c'est-à-dire que nous, Insoumis, on n'hésite pas en fait à nous poser, à aller discuter auprès des citoyens. Enfin, vraiment, on aime beaucoup aller au contact de la population, c'est vraiment une de nos marques de fabrique, je dirais. Puis après, peut-être que je peux laisser Michel et Natacha compléter, parce que je parle beaucoup.
Quand on va rencontrer l'humain, quand on va rencontrer les citoyens directement à leur appartement, il y a une sorte d'intimité, de choses qui se créent quand même. Et la parole, elle se libère. C'est plus facile de comprendre et de cibler les besoins. Des besoins qui, des fois, ils vont pas. Il y a des personnes qui ne vont pas aller s'exprimer autrement, qui ne vont pas aller chercher de l'aide ailleurs. Et même à travers ces porte-à-porte, des fois, on peut apporter de l'aide comme ça. On peut apporter des indications. On ouvre la parole. On leur permet de comprendre qu'ils ne sont pas tout seuls quand on est parfois dans les quartiers populaires. Bien sûr, je rappelle qu'on n'est pas que dans les quartier populaire, parce que l'Arrageois, il est grand et on est là pour Arras et pour les Arrageois. On sait que beaucoup de choses ont déjà été faites dans Arras, on le remet pas en question, mais on pense qu'il y a tout un plan social qu'il faut remettre quand même un petit peu à plat et mettre tout en avant.
Pour compléter, souvent, c'est l'occasion de leur poser la question de savoir s'ils sont inscrits sur les listes électorales, parce que très souvent, en fait, les gens ne se préoccupent pas de savoir s'ils sont ou non inscrits. Et quand on reparle du sujet politique, parce que c'est de ça dont il faut qu'on parle, déjà, ça nous permet effectivement de pouvoir les sortir un peu de la solitude, parce que très souvent, en fait, on a l'occasion de constater que les gens sont
isolés,
en fait. Et c'est un des paradoxes, c'est-à-dire qu'on est dans une société qu'on nous vend comme ultra connectée, et en fait, on a face à nous des gens qui sont souvent ultra isolés, quoi. Et on voit bien que cet isolement, en fait, constitue une barrière, et donc nous, on essaye de faire tomber cette barrière. Alors, pour nous, c'est une phrase d'accroche de savoir s'ils sont ou non inscrits sur les listes électorales, parce que très souvent, en fait, ça nous permet d'engager la conversation sur autre chose derrière, parce que cette idée d'être inscrit ou non sur une liste, c'est un prétexte, parce que très souvent, en fait, on se rend bien compte que passer la première méfiance naturelle qui est la leur, et ce qui est logique, hein, on nous apprend à nous méfier et à avoir peur de l'autre en permanence, et ben en fait, dès qu'on commence un peu à faire tomber cette barrière, on a l'occasion d'avoir de très beaux échanges, d'avoir des conversations vraiment intéressantes, où des gens nous expriment de manière assez profonde parfois, et parfois très touchante, leur vécu, leur quotidien, et je pense que même si, politiquement parlant, on va peut-être nous reprocher que ce ne soit pas forcément toujours payant, je trouve que d'un point de vue humain, c'est toujours une excellente manière de faire et de voir les choses. Enfin, voilà.
Est-ce que l'enjeu, c'est pas aussi d'aller convaincre les abstentionnistes?
Oui.
On allait tous les
un triple oui.
Sur le...
oui. Non, si. Ça, alors, je commence à vous compléter. Oui, évidemment, cette question de l'abstention, elle est quand même pour nous hyper importante parce que il y a plusieurs enjeux. C'est-à-dire que, un, il y a une question de vitalité démocratique. Aujourd'hui, on est sur une démocratie qui, selon nous, se dévitalise parce que les gens pensent que ça ne sert à rien, que ce discours, on l'a régulièrement, hein, que du tout se pourrit, de... Enfin, voilà. Donc, nous, il y a vraiment le souci de faire en sorte que se dire « Non, la démocratie ne s'use que si on ne s'en sert pas ». Donc, il est nécessaire d'inviter les gens à s'inscrire et à participer aux élections parce que c'est important, parce que ça les concerne, et pas juste parce qu'il s'agit de glisser un bulletin dans une urne. Et d'une manière générale, en fait, très souvent, on se rend compte aussi que quand on discute avec les abstentionnistes, dans la majorité des cas, on est d'accord sur le projet. C'est-à-dire que très souvent, en fait, il y a un double aspect. C'est-à-dire qu'il y a un aspect d'ordre général parce que ça sert la démocratie et elle en a besoin. Et puis, on va dire, d'un point de vue plus politique, nos idées, en fait, sont souvent défendues par les gens qui sont abstentionnistes également et qui se retirent de la politique. Enfin, on pense au quartier populaire, mais pas uniquement à ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient être amenés à partager nos idées ou en tout cas à être d'accord avec nous sur les grands principes qu'on défend. Et qui parfois ne se sentent pas habilités ou en tout cas ne voient plus l'intérêt d'aller voter. Donc oui, cette question de l'abstention, pour nous, elle est essentielle.
Oui, je pense que les gens, parfois, ont été perdus. Ils sont stressés par rapport à ça, je crois. Et peut-être que le manque en local de ces moments démocratiques fait que ça les éloigne parce qu'ils n'ont plus que la télé qui leur renvoie quelque chose sur la politique. Et tout ça, c'est dénaturé. Et c'est vrai que parfois, on nous dit « Non, mais ça ne m'intéresse pas, moi, ce qui se passe à la télé. » Et là, il faut ramener les gens sur le local pour leur dire « Voilà ce qui se passe, voilà les conséquences. » Et quand on pose des questions, ils se rendent compte que effectivement leur problème, il est bien concret. Et on peut en discuter au niveau local et ça doit être un enjeu de ces élections.
On sait bien que c'est l'élection préférée des Français, c'est pas pour rien. C'est justement parce qu'il peut avoir cette proximité et qu'on peut aller les chercher, les ramener et leur redonner un petit peu foi en la politique et leur dire, écoutez, non, nous on est là, on vous écoute. Et justement, ce qu'on veut, c'est remettre au centre de la discussion, du coup, la démocratie et puis vos demandes et vos besoins.
Aujourd'hui, la municipalité propose effectivement des rencontres, mais c'est tellement cadré, contraint que... Les personnes qui y vont auront du mal à s'exprimer ou alors on sera toujours sur les mêmes sujets parce que c'est ceux-là qu'on va favoriser. Et donc on a ces rencontres de quartier, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est de la communication qui est très bien faite, mais ça reste de la communication. Et donc les gens ne se projettent pas dans un moment politique, ils se projettent juste dans un moment d'échange. Donc on voit bien qu'il y a un manque au niveau local aussi. C'est aussi là qu'on peut apprendre ce que peut être et ce que doit être la politique. Et aujourd'hui, on a beaucoup de communication et peu de politique.
Alors, on va parcourir quelques-unes de vos propositions. Et puisqu'on parle de participation citoyenne, on va parler d'une proposition que vous souhaitez instaurer, un référendum d'initiative citoyenne municipale. Alors expliquez-moi, déjà, est-ce que ça émane de la demande des Arageois et comment cela fonctionnerait ?
Cette idée d'instaurer un RIC municipal, en fait, très concrètement, elle vient à l'origine du mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'au départ, c'était une des revendications qui se sont fait jour lors du mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire que cette idée que, justement, il y a un moment où les politiques sont déconnectées de la réalité et qu'il faut, à un moment, les interpeller de manière directe et radicale, donc par l'intermédiaire d'un référendum d'initiative citoyenne. C'est-à-dire que ce sont les citoyens qui prendraient la possibilité de demander un référendum pour pouvoir notamment révoquer le mandat des élus si on voit que, dans une certaine mesure, ils ne sont pas en capacité de porter les programmes pour lesquels ils ont été élus ou s'ils étaient amenés, par exemple, à avoir une défiance beaucoup trop forte. Comment est-ce que ça fonctionnerait dans un cadre municipal ? L'idée, c'est de consulter les habitants en organisant une forme de votation citoyenne dont le conseil municipal, et ça c'est important, j'insiste, s'engagerait à respecter le résultat sous réserve de la participation à un quorum, en fait, en gros. Et donc, du coup, l'idée, c'est de travailler sur les grands sujets communaux, comme les grands projets d'aménagement, l'intercommunalité, l'organisation des temps périscaux. Sur Arras, par exemple, ça pourrait tout à fait être l'occasion de réinterroger le projet qui est lié autour de l'abbaye Saint-Val, parce que nous, on constate que c'est un projet qui est à la fois symptomatique de la gestion portée par la municipalité en place et sur lequel, en fait, nous, on aimerait vraiment, enfin, c'est un exemple important, mais on aimerait que les Arrageois soient consultés parce que ça fait partie du patrimoine de la ville et le fait que celui-ci soit en partie privatisé au profit d'un prestataire hôtelier haut de gamme nous interpelle fortement. Et donc, dans le cadre de la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne, ça pourrait être, par exemple, ce type d'intervention. Si jamais, imaginons qu'il y ait une pétition regroupant en gros à peu près 10% du corps électoral qui puisse, en fait, interpeller la municipalité, celle-ci s'engagerait à ce que, effectivement, on puisse établir un référendum autour de ce type de projet. De façon à ce que derrière, si éventuellement, il y a une majorité des Arrageois qui se présenterait OK pour le projet, c'est le principe de la démocratie et là-dessus on n'a pas de difficulté. Par contre, ce qui me semble important, c'est que c'est un sujet sur lequel il faudrait qu'on puisse en débattre et ne pas juste le constater de conseils municipaux en conseils municipaux.
L'abbaye Saint-Va, ça concerne plutôt le volet politique culturel de la ville, sur lequel vous appuyez aussi. Et si je me base d'ailleurs sur votre dernier communiqué de presse, en réaction au dernier conseil municipal qui a eu lieu le 8 décembre, vous dénoncez une politique culturelle de la ville qui actuellement est réduite à une sorte de vitrine et qui se limite à de la communication événementielle. Vous citez notamment la fête de l'Andouillette, le marché de Noël, le championnat du monde de la frite. Et au cœur de ces propositions, il y a notamment un volet sur Saint-Va. On en parle un petit peu ?
Alors aujourd'hui, effectivement, on a vu ça au conseil municipal. On a la confusion des genres entre un projet immobilier, qui est l'installation d'un groupe hôtelier dans un monument historique. Ce projet, c'est très compliqué parce qu'il est d'abord immobilier, mais ce projet immobilier, du coup, il va exploser toute la partie culturelle. Et donc la mairie tente, dans une définition de sa politique culturelle, qui est une politique événementielle et non pas culturelle, et elle fait cet écran de fumée avec des événements. Des événements qui sont populaires, c'est vrai. Mais c'est pas pour ça qu'ils sont culturels. Et donc on a un projet comme ça qui avance. On a des projets qui tentent effectivement de rattraper un peu tout ça avec l'installation d'un office culturel, donc dans des nouveaux locaux. Un office culturel qui est en fait une maison des associations, c'est beaucoup plus clair pour savoir ce qu'il y a dedans.
Est-ce qu'il y a des propositions justement pour la vie culturelle arrageoise ?
On a l'exemple d'une grosse association qui est Tandem, donc théâtre jumelé Arras-Douai. Au dernier conseil d'administration, pour la présentation des comptes et donc des subventions, la mairie de Douai proposait une augmentation de la subvention de 13%, plus 13% pour Tandem Douai. Et Arras proposait une baisse, pas énorme, ça devait être de 5000 euros, mais c'est une baisse. Donc on voit tout à fait l'objectif. Donc une politique culturelle, c'est quelque chose qu'on n'a pas à donner le détail, parce que c'est des choses qu'on construit avec des professionnels, avec des associations. Mais par contre, pour donner l'objectif, pour donner le cadrage, nous, on sait qu'on est dans le culturel, de ce que peut être positif pour l'éducation, pour ce que les gens puissent développer aussi un esprit
plus critique, quelque part. Voilà. Parce que quand on a accès à la culture et au savoir, et ben justement, on peut fignoler, affiner notre analyse et notre critique envers la société.
Alors, vous avez choisi une campagne de terrain, on l'a bien compris, notamment avec du porte-à-porte. Mmh. Ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, c'est qu'il en ressort régulièrement des problématiques liées au logement.
Oui.
Il y a plusieurs propositions que vous portez sur les logements, notamment un projet qui se veut écologique. Parmi les propositions, la lutte contre les passoires énergétiques dans les parcs de logements municipaux.
Très souvent, en fait, on se rend compte qu'il y a plusieurs sujets. C'est que, un, comme on est une ville touristique, on a quand même aussi une représentation très forte. On a une augmentation assez exponentielle du nombre de Airbnb. Et en fait, on voudrait calquer sur Arras la politique qui a été mise en place, notamment dans des villes comme Paris ou sur Marseille, sur l'encadrement, en fait, des logements Airbnb. Airbnb, mais pas que, hein, parce que souvent, on prend en exemple cette plateforme, mais elle n'est pas la seule, hein. Travailler sur une question de l'encadrement, mettre en place un encadrement sur l'hypercentre parce que pour éviter en fait une envolée des prix des loyers. Et effectivement, il y a cette question de travailler sur du zéro passoire énergétique en ciblant d'abord les quartiers un peu prioritaires sur lesquels en fait on voit bien que on a soit des passoires thermiques ou des bouilloires thermiques, parce que c'est aussi ça qui arrive aujourd'hui, c'est-à-dire que comme le réchauffement climatique accentue de manière très forte les contraintes climatiques, on parle souvent de gens qui ont froid en hiver, mais on oublie aussi souvent ce qu'on appelle les bouilloires thermiques, c'est-à-dire que c'est des lieux où les gens en fait cuisent littéralement chez eux en fait, tout simplement. Et donc ça passerait effectivement par l'accompagnement de la rénovation thermique de ces bâtiments. Il existe des dispositifs sur lesquels nous, on pourrait s'inspirer de ce qui se fait. En fait, je sais qu'il y a des expérimentations qui sont en cours dans d'autres collectivités. En tout cas, nous, il nous semble qu'il y a une urgence à agir sur ces quartiers prioritaires sur lesquels, en fait, on pourrait accompagner, que ce soit les bailleurs sociaux sur lesquels on a sans doute des échanges avec lesquels on peut commencer à discuter pour pouvoir identifier et mettre en place des procédures pour pouvoir justement terminer cette histoire de passoire thermique, parce que concrètement, on se rend bien compte que ça pourrit la vie de beaucoup de gens, en fait, cette histoire de logement. C'est une forme d'insalubrité qui ne dit pas son nom. Et voilà. En fait, ce qu'il faut, c'est quand même être très attentif aussi au programme de nouveaux logements. C'est-à-dire que très souvent, en fait, on a le sentiment qu'on veut faire de l'écologique ou du... Enfin, voilà. Il y a plein de facteurs qui sont rentrés en considération. Mais cette idée que, bah, il faut éviter au maximum une passoire énergétique ou une bouilloire thermique, c'est pour moi essentiel. Sauf que quand les gens ont réussi à trouver un logement, ce qui est quand même en soi une des vraies difficultés quotidienne pour des millions de personnes dans ce pays, pour des milliers d'Arrageois. L'avoir accès à un logement, c'est quand même un droit fondamental, mais qui est très peu suivi, en tout cas très peu suivi des faits. Et donc, du coup, on n'imagine pas la difficulté que les gens peuvent avoir concernant cette difficulté. Et pour nous, il nous semble important de travailler avec les bailleurs sociaux, de travailler avec les propriétaires, de travailler avec les locataires, de façon à ce que pour chaque cas, qu'on puisse établir des diagnostics qui soient en mesure d'accompagner et de quantifier les solutions quand elles sont possibles, en fait, parce qu'il y a aussi des moments ou des endroits où peut-être qu'il n'y a pas de solution. Ça, c'est pas que c'est pas impossible. Ceci étant, il y a souvent, très souvent, des possibilités. On a un arsenal législatif, enfin juridique, sur lequel on peut aussi s'appuyer pour accompagner au mieux à la rénovation urbaine. On peut s'appuyer sur les agences de l'habitation. Enfin voilà, il y a tout un ensemble de mécanismes sur lesquels nous on peut agir, enfin sur lesquels on souhaiterait agir. Encore faut-il qu'il y ait une vraie volonté et que ça soit considéré comme un des chantiers prioritaires de la nouvelle mandature.
Alors, je me suis attardée sur quelques-unes des propositions, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, autour de la question de la nature en ville, de la santé, de la police de proximité, des mobilités avec les bus gratuits. On a déjà eu l'occasion d'en faire un sujet sur cette antenne. Vous avez pris aussi des engagements auprès des propositions du collectif féministe. On les a reçues la semaine dernière, donc on a pu en parler. On reviendra un peu plus en détail sur vos propositions lors des interviews de candidats qu'on fera en 2026. Une dernière proposition peut-être, on parle service public, il est question du retour donc en régie publique de certains services comme la gestion de l'eau.
Oui.
Donc on parle beaucoup en ce moment d'ailleurs de l'eau.
C'est exact, ouais. Très concrètement, hein, nous on prône une remunicipalisation maximum de l'ensemble des services. Parce que vous l'avez compris un peu au travers de notre discours, il est important que les Arageois se réapproprient les services qui font fonctionner leur vie quotidienne, que ce soit les cantines, que ce soit leur transport, que ce soit leur eau. Très concrètement, en fait, on se rend bien compte que pendant longtemps, il y a eu un mouvement qui considérait que on allait tout externaliser et tout confier aux mains du privé parce que ça coûterait moins cher, ça fonctionnerait mieux et que de toute façon, le public ne savait pas faire. Or, il s'avère que, un, ça ne fonctionne pas mieux. Il n'y a qu'à voir le fait qu'aujourd'hui, on considère que les eaux du bassin l'Artois et de l'Arageois sont considérées comme, pas comme impropres à la consommation, mais en tout cas, il est formellement déconseillé de la boire. Et donc, du coup, ça veut dire que, un, la délégation de services publics autour de l'eau, la mission n'est pas assurée. En termes de coûts, on considère aussi qu'on est assez loin de l'objectif, puisque l'eau, je ne veux pas rappeler le coût du mètre cube, mais en fait, c'est quand même un coût conséquent. Bref, contrairement à ce qu'on nous a vendu pendant des années, le privé, ça ne fonctionne pas aussi bien que ce qui était espéré. Donc, nous, ce qui nous préoccupe, effectivement, c'est de pouvoir remunicipaliser l'eau et donc de le récupérer en régie directe. Il y a des collectivités qui l'ont toujours fait, il y en a des collectivités qui se remettent à le faire. Alors, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique, on est d'accord, parce que très souvent, ce sont des compétences techniques un peu spécifiques qu'il est difficile de récupérer, mais encore une fois, on a des méthodes qui existent, des méthodes qui ont été éprouvées et sur lesquelles nous, on souhaite très clairement et très ardemment revenir et se mettre en place là-dessus, quoi, parce que c'est un bien commun, l'eau. On fait sens de cette proposition qui avait été portée par Jean-Luc Mélenchon en 2022 sur la gratuité des premiers mètres cubes d'eau, parce que il nous semble essentiel que les gens aient un accès à cette ressource. Et encore une fois, très souvent, on nous dit qu'on a des idées un peu démagogiques ou complètement hors de propos. Il se trouve que d'autres collectivités qui ne sont pas forcément portées par des insoumis ont fait le choix de mettre en gratuité l'accès au premier mètre cube d'eau, de façon à ce que derrière, puis après la suite, de mettre en place un espèce de forfait en fonction de la consommation. C'est-à-dire que très concrètement, pour vos besoins vitaux, on est sur une gratuité. Si vous remplissez votre piscine, vous utilisez beaucoup d'eau. Donc là, effectivement, il y aura un espèce de forfait qui fera en sorte que vous paierez plus cher, ce qui nous semble un peu logique, dans une certaine mesure. Donc, on sait que c'est possible. Alors, on sait que ce n'est pas un chemin parsemé de roses, mais un peu comme pour beaucoup de nos propositions, c'est-à-dire que très souvent, on nous met au défi ou à l'épreuve de devoir justifier de la capacité technique ou financière de pouvoir justifier notre programme, parce que très souvent, on vient nous voir en disant « Oui, vous avez des idées complètement loufoques ou vous êtes des hurluberlus qui ne comprenaient rien à rien et vous êtes détachés des contingences terrestres. » Nous, on essaye au maximum de bosser la faisabilité technique de nos propositions, c'est-à-dire que on évoquait un petit peu la question de la gratuité des transports. On a à cœur de se renseigner, d'aller chercher les infos, d'élaborer des scénarios. Alors on est aussi des gens pragmatiques, c'est-à-dire que très concrètement, si on se rend compte qu'on fait face à une difficulté, on reporte ou on retravaille cette question-là. Mais pour en revenir au sujet de l'eau, c'est un bien précieux, c'est un bien vital, c'est un bien qui est menacé par la pollution, par la surexploitation, on sait qu'il existe aujourd'hui des conflits sur Terre qui ont pour source l'accès aux sources d'eau. Nous, on souhaiterait que ce bien commun, on puisse à la fois le protéger et le mettre à disposition de tous ceux dont on a besoin. Et pour cela, en fait, le retour en régie publique nous semble être une absolue nécessité.
On a reçu la semaine dernière la liste du printemps arageois, donc on a déjà eu quelques éléments de réponse, explications sur le fait qu'il n'y ait pas d'union populaire vous incluant. On se pose quand même une question, après avoir passé autant de temps avec les autres partis de gauche conjointement à travailler sur des propositions, est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir deux programmes qui se ressemblent trop, de disperser peut-être les électeurs de gauche ?
J'ai envie de dire que, un, ce n'est pas de notre fait. C'est-à-dire que nous avons fait en sorte, pendant des mois, de travailler à la mise en place d'une union des gauches sur le même principe que celle qui avait été portée lors du NFP. C'est-à-dire que pendant la campagne des législatives, l'ensemble des militants insoumis s'étaient mis au service de la candidature d'Alexandre Cousin et on l'avait fait sans arrière-pensée politicienne. Mais en tout cas, on s'y était engagé avec notre cœur, avec l'ensemble de l'énergie qui nous anime au quotidien. Et on était sans doute un peu naïfs, mais on imaginait très clairement que ces questions... Enfin, on est d'accord, on est conscient qu'il y a des différences qui font qu'on n'est pas les mêmes. C'est ce qui fait d'ailleurs tout l'intérêt d'avoir des partis différents. On a le droit de ne pas tous être d'accord sur tout. Nous, on y est allé avec l'esprit qui était le nôtre, de celui d'essayer de construire un consensus le plus large possible. Et parce que justement, on va dire que 98% des propositions qui sont les nôtres peuvent, enfin, sans trop de difficultés, être reprises par le printemps arrageois. Je peux dire autre chose que pour moi, c'est un peu dommage, c'est un peu un gâchis. C'est-à-dire que pour des questions d'image, peut-être que les insoumis ne font pas suffisamment propre sur eux. Peut-être que notre image trop radicale peut peut-être parfois nous jouer des... Enfin, en tout cas, je ne sais pas si ça nous joue des tours, mais concrètement, je pense que parfois, il faut faire preuve d'un peu de courage. Et je trouve que, pour le coup, et alors je ne vais pas passer mon temps à dire des choses déplaisantes, parce que ça ne me plaît pas, et puis surtout, ça n'a pas grand intérêt, mais je trouve que sur cette élection, ils ont manqué de courage. Voilà. Et c'est dommage parce que, encore une fois, nous, dans cette élection, comme dans toutes les élections dans lesquelles on se projette, on y va avec toute notre énergie, tout notre cœur. Au sein du printemps arageois, il se trouve qu'il y a des camarades dont je me sens proche, des gens qui sont des amis. Je serais bien en peine de vous dire que ça ne m'a pas peiné le fait que, non, vous les insoumis, vous restez sur le bord de la route parce que, quelque part, des considérations politiciennes qui, sans doute, les échappent et nous échappent, n'ont pas permis cette union.
Est-ce que prochainement, il y a des cafés citoyens, du porte-à-porte prévu pour aller à la rencontre des Arageois ?
Alors là, pour le moment, on va observer une petite pause pour les fêtes. On fait une galette républicaine le 11 janvier prochain, qui aura lieu à 17h. Donc suivez un peu nous sur les réseaux. Vous y êtes cordialement invités pour manger de la galette. En fait, ça sera un peu le point de départ de notre campagne, cette galette. Et puis par la suite, en fait, on lancera vraiment la campagne avec... on a prévu ce qu'on appelle, nous, des caravanes populaires. C'est-à-dire qu'on a une tente Barnum qu'on vient, qu'on pose dans un quartier, et puis c'est l'occasion avec une partie de l'équipe qui va faire du porte-à-porte et puis une autre partie de l'équipe qui reste sur place, et en fonction du climat ou de l'heure de la journée, on offrira soit du café, soit de la soupe à l'oignon pour pouvoir en fait discuter, tracter avec les gens, parler de politique évidemment, parler des municipales bien sûr, puis parler aussi de tout et de rien, hein, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, le plus important pour nous, c'est que les gens viennent, puissent échanger avec nous, briser un peu les murs de la solitude et puis faire société.
Et on a fait ce choix parce que, effectivement, le fait de se retrouver dans un endroit comme un café citoyen, c'est pour éviter de se retrouver entre soi. Donc nous, on aime ces moments ouverts pour ne pas, effectivement, toujours se parler entre personnes qu'on connaît et qui sont, de toute façon, nos militants. Donc là, on va ouvrir complètement pour avoir des gens qui seront peut-être interpellés, pas intéressés, mais interpellés par notre présence. Et donc c'est là, hop, qu'on va pouvoir échanger avec eux.
Et en attendant ce super rendez-vous qu'on vous donne le 11 janvier, on vous propose d'aller vérifier si vous êtes bien sur les listes électorales et de vous inscrire massivement. C'est important, votre voix est importante, chacun dans ce pays est important et dans cette ville. Voilà.
Merci à vous trois.
Merci Laura.
Alors, merci. On rappelle aussi aux auditeurs qu'ils peuvent retrouver jusqu'au 24 décembre une proposition qui est portée par votre liste tous les jours.
Tout à fait.
Sur les réseaux sociaux.
Tout à fait. Sur le Facebook Arras à gauche, et vous pouvez nous suivre aussi sur l'Instagram Arras à gauche.
Merci à vous trois.
Merci.
Et bonne campagne.
Merci.
Au revoir.